Il est 18h passé de 15 minutes dans le studio Kalangou. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le forum du studio Kalangou. Merci aussi de votre fidélité au programme de studio Kalangou. Le forum de studio Kalangou porte aujourd'hui sur les droits et devoirs des citoyens en matière d'éducation au Niger. La loi numéro 98-12 du 1er juin 1998 portant orientation du système éducatif nigérien stipule que l'éducation est un droit reconnu à tout citoyen nigérien sans distinction d'âge, de sexe, d'origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse. Alors, pourquoi l'éducation est-elle un droit au Niger? Quelle est la situation de ce droit à l'éducation au Niger? Quels sont les défis liés à l'éducation au Niger et que faire pour assurer et développer le système éducatif sur l'ensemble du territoire du Niger? C'est pour tenter de trouver des réponses à toutes ces interrogations et à bien d'autres que nous recevons dans ce studio M. Arima Chegou. Il est en charge des urgences en éducation au ministère de l'Enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir, madame.
Madame Mariama Koulibaly, elle représente l'association des parents d'élèves et étudiants du Niger. Bonsoir à vous.
Bonsoir, madame.
Et monsieur Ilyas Al-Husseini, il est le président de la coalition nigérienne pour une éducation de qualité pour tous à SOEPT. Bonsoir.
Bonsoir,
madame. À la présentation, Nafis Adam Sirfo. Chers invités, merci une fois de plus d'être venus. Alors, l'article 12 aussi de la Constitution de la 7e République du Niger, à son alinéa premier, précise que chacun a droit à la vie, à la santé, à l'intégrité physique et morale, à une alimentation saine et suffisante, à l'eau potable, à l'éducation, bien sûr, et à l'instruction dans les conditions définies par la loi. Je commence par vous, monsieur Arima. Vous êtes en charge des urgences en éducation au ministère de l'Enseignement primaire. Donc, dites-nous d'abord, qu'est-ce qu'on entend par droit à l'éducation?
Donc, j'aimerais commencer par remercier vraiment le studio Kalangou pour tous ces efforts que vous faites en matière vraiment d'éducation. Comme vous le savez, l'éducation, c'est un défi dans un pays. Et pour un peu relever ce défi, nous avons besoin de tout ce qui est apport, c'est-à-dire aussi bien sur le plan médiatique, sur le plan associatif, sur le plan sociologique, ainsi de suite. Maintenant, pour essayer de parler vraiment sans aller dans des vraiment terminologies trop juridiques, c'est-à-dire parler de droit à l'éducation, c'est tout ce que nous allons créer comme condition pour que les enfants en tranche, dans la tranche d'âge scolarisable, puissent jouir de ce droit.
Puissent aller à l'école.
Pour aller à l'école. Donc, jouir de droit, c'est ça. Donc, pour qu'ils puissent aller à l'école.
D'accord.
Donc, maintenant, c'est pour jouir de ce droit, nous avons des tranches d'âge qui sont considérées. C'est-à-dire, le Niger, c'est 1 267 000 km², environ 22 millions d'habitants. Donc, c'est dans ces 22 millions d'habitants, nous avons une, ce que nous appelons une tranche scolarisable. Donc, c'est de créer les conditions pour l'État, pour que l'ensemble de ces enfants-là puissent aller à l'école.
Et c'est quoi cette tranche-là?
Bon, donc cette tranche, c'est-à-dire justement pour ne pas aller trop dans des données, c'est-à-dire sur les 22 millions d'habitants, on considère que, par exemple, si vous prenez, nous avons environ 51%, ou bien parfois même les gens disent 60% des jeunes. Mais maintenant, donc la tranche d'âge, elle va commencer, par exemple, donc avec le préscolaire. Donc pour le préscolaire, c'est les 3-4 ans, jusqu'au tertiaire, donc c'est l'université, sans oublier encore les parents qui, pour lesquels nous avons des stratégies d'éducation non formelle, les enfants déscolarisés. Donc c'est toute cette communauté dans cette tranche d'âge qui doit aller à l'école et l'État doit créer les conditions pour que ces enfants ou bien cette population dans cette tranche d'âge puisse aller à l'école.
Et comment se présente la situation au Niger?
Bon, pour parler vraiment de la situation au Niger, donc j'aimerais parler d'abord des conditions. Donc vous venez de citer notre constitution, c'est-à-dire donc d'abord du point de vue constitution, le droit à l'éducation est reconnu. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de la Renaissance. Nous sommes donc dans un programme de la Renaissance qui est décliné en programme de développement économique et social, qui lui-même pour l'éducation, c'est le programme sectoriel de l'éducation et de la formation. Donc dans ce cadre-là, nous avons aujourd'hui 3 850 000 enfants qui sont dans la tranche d'âge que je viens de dire, c'est-à-dire de préscolaire jusqu'au tertiaire, qui sont dans le système et qui sont dans nos mains. Donc pour cela, nous, nous avons donc ce que nous appelons le plan de transition du secteur de l'éducation et de la formation, dont je peux considérer que donc, chaque année, créer les conditions pour que l'ensemble de ces enfants-là puissent aller à l'école. Donc il faut créer les conditions, d'abord d'accès, donc créer les infrastructures, une fois à l'école, créer les conditions de leur maintien et maintenant encore d'appuyer aussi l'amélioration de la qualité de l'éducation.
Et qu'en est-il même de la situation? Il n'y a pas que le milieu urbain. On sait que aussi en milieu rural, les enfants aussi ont droit à l'éducation. Qu'en est-il de la situation en milieu rural?
Bon, c'est-à-dire maintenant, comme je viens de te le dire, le Niger, c'est 1 267 000 km². Dans le cadre du travail que nous sommes en train de faire, donc les ministères en charge de l'éducation, d'abord, il y a 6 ministères. Donc les 6 ministères en charge de l'éducation et de la formation font ce travail. Donc les principales difficultés que nous avons, donc ce que vous parlez, c'est selon les disparités. Donc les disparités sont liées à trois types de disparités.
Et quelles sont
liées au genre, c'est-à-dire filles, garçons, lié au milieu, c'est-à-dire donc zone rurale, zone urbaine, et lié aux revenus, c'est-à-dire riches et pauvres. Nous sommes en train de dire au Niger que si je prends les trois éléments-là, une fille par exemple, donc je prends l'aspect genre, pauvre, dans un milieu rural, il a très peu de chances d'aller à l'école. Donc nous, au niveau du système éducatif, nous sommes conscients de cela. Donc ce sont des dispositions qu'il faut essayer de créer les conditions. Dès lors que la Constitution dit que c'est un droit inaliénable, donc l'État doit créer les conditions. Donc c'est ce qui fait que dans le cadre de l'adresse ou bien dans le cadre des actions mises en œuvre, donc des écoles sont créées aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain.
Donc nous allons en venir plus en détail sur les actions. Monsieur Ilyas Al-Hussein, vous êtes le président de la coalition nigérienne pour une éducation de qualité pour tous à SEPT. Avant de venir à ma question, est-ce que vous avez une réaction suite à l'intervention du représentant du ministère?
Merci Nafissa. Merci au studio Kalangou pour ce travail de sensibilisation que vous faites à l'endroit des citoyens pour que les uns et les autres comprennent véritablement leurs droits et leurs devoirs. Notamment dans le contexte éducatif qui nous concerne ici. Mon grand frère Arima l'a dit, il y a un certain nombre de dispositifs que le ministère a mis en place pour assurer le droit à l'éducation des citoyens, pour tout citoyen. Il y a un certain nombre de dispositions légales que vous-même vous avez citées, notamment la Constitution, et la loi 98-12, notamment la loi d'orientation du système éducatif, qui détermine le rôle et les attributions de chacun dans la conduite ou la mise en œuvre des activités du système éducatif. C'est vrai également que le Niger a souscrit au niveau international, parce qu'il faut le dire, à plusieurs engagements qui y va dans le cadre de l'éducation pour tous, notamment quand vous prenez l'ODD 4 qui dit en substance assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Ça, c'est un objectif global que tous les États ont souscrit. Maintenant, au niveau du Niger, le gouvernement a essayé de matérialiser cela dans le programme sectoriel de l'éducation et de la formation pour que ça soit arrimé. Plus loin, on est parti vers le plan de transition du secteur de l'éducation. C'est juste pour dire qu'il y a un dispositif qui est là. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a véritablement à l'intérieur de ce dispositif? C'est ce que mon grand frère Arima a déterminé. Maintenant, est-ce que véritablement toute cette tranche d'âge dont il a déterminé a accès véritablement à l'éducation, y a-t-il suffisamment d'infrastructures qui peuvent abriter ces enfants? Est-ce que l'État a mis à la disposition de ces écoles les enseignants suffisants pouvant dispenser les cours? Est-ce que l'environnement a été créé? Moi, je pense que c'est autour de cela qu'il faudrait engager les discussions. Oui. Au-delà de cette tranche d'âge, il y a les enfants déscolarisés, il y a les enfants de la rue. Quel est le dispositif aujourd'hui mis en place pour récupérer tous ces enfants afin de les reverser dans le système éducatif?
Oui.
Il y a aussi le taux d'analphabétisme au Niger aujourd'hui. Malheureusement, vous savez, l'IDH a toujours démontré que nous sommes derniers. C'est malheureux, c'est regrettable. On souhaite que cela s'améliore.
Mais vous, selon vous, concrètement, à la date d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que ce droit est une réalité aussi au Niger?
Moi, à mon avis, quand on regarde un peu la superficie de ces pays, 1 260 000 km², et quand on regarde les enfants qui sont dans la rue, et nous voyageons beaucoup aussi à l'intérieur du pays, quand on voit dans les villages les enfants qui circulent, qui ne partent pas à l'école, je pense que beaucoup reste encore à faire, malgré les efforts importants que l'État a consentis pour construire quelques écoles dans les villages, améliorer des écoles, comme vous le dites, améliorer l'environnement scolaire, mettre à la disposition des kits scolaires. Je crois que beaucoup encore reste à faire parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne partent pas encore à l'école.
Et surtout en milieu rural.
Surtout en milieu rural. Mais ma foi, souvent, on pense que c'est même le milieu rural, mais moi, je vois que même dans les grands centres, il y a beaucoup d'enfants. Regardez bien à Niamey, allez-y à Maradi, allez-y à Zander. Dans les grands centres, vous allez voir des enfants en âge d'aller à l'école qui ne partent pas à l'école. Heureusement, peut-être que les écoles coraniques...
Mais où se situe le problème?
Le problème, il se situe à plusieurs niveaux. Il y a d'abord l'État qui a créé des infrastructures, même si c'est insuffisant. Il y a aussi la réticence souvent de nos parents à inscrire les enfants à l'école. Je crois que là aussi, peut-être l'association des parents d'élèves pourrait nous dire quel est le travail qu'il faut faire pour qu'on puisse améliorer le taux de fréquentation et surtout le taux d'inscription des enfants en âge d'aller à l'école. Sinon, madame, le dispositif, l'arsenal de disposition est là. L'État a mis le schéma, mais je pense que le moyen a manqué à plusieurs niveaux. Qu'il faudrait améliorer malgré les efforts, comme j'ai dit, importants que l'État est en train de faire.
Merci à vous, Madame Mariama Koulibaly. Vous représentez l'Association des parents d'élèves et étudiants du Niger. Alors, comment vous analysez la situation même de l'éducation en général ici au Niger?
Merci, Nafissa et la radio Kalangou. Donc, la situation de l'école, là, vraiment, elle est un peu critique.
Critique
pourquoi? Surtout, en premier lieu, au niveau même des parents. Il y a certains parents qui disent que, vu le niveau de certains enseignants, ils ne veulent pas inscrire leurs enfants à l'école. Il y a cet aspect-là. Et surtout en milieu rural, si l'enfant, même s'il est à l'école, ils n'ont pas le même niveau que nos enfants de...
milieu urbain. Et qu'est-ce qui explique cela?
Déjà en avril, mai, dès qu'il y a la première pluie, c'est fini. Les champs sont occupés. Et les écoles aussi, c'est dans les champs. Donc, vous voyez, quand un parent vient, il laboure son champ, tu n'as plus accès à l'école. Jusqu'en octobre, novembre, l'enfant traîne. Donc, et celui qui est en milieu urbain, dès le 1er octobre, il est à l'école. Donc, même s'il a admis en entrée en sixième, donc vraiment, s'il vient à Niamey, ils n'ont pas le même niveau. Ils n'ont pas le même niveau. C'est pourquoi, dès la sixième, tu vois un enfant renvoyé. Même en milieu rural, même en milieu urbain, l'enfant à la rentrée d'octobre en janvier, c'est fini, il est renvoyé. Puisqu'il n'a pas le niveau. Vraiment, nos enfants n'ont pas le niveau.
Mais la responsabilité se situe où concrètement?
La responsabilité, surtout chez nous, les parents, et même chez les enseignants. Pourquoi? Le fait de laisser passer vos enfants vraiment qui n'ont pas les niveaux. Ouais. Ils n'ont pas les niveaux, mais on ne les laisse pas continuer pour ne pas les renvoyer des OCI ou en classe de CM2. On leur fait passer comme ça, là.
Et d'aucuns disent que les parents d'élèves sont les seuls responsables de l'éducation de leurs enfants.
Nous, chaque fois, on tient des sensibilisations à leur faire. Si un père est sensibilisé d'amener son enfant à l'école, donc il doit le suivre dès à bas âge, vous voyez. Il y a aussi l'habillement des enfants, surtout dans les collèges, surtout au niveau des filles.
L'habillement, comment?
L'habillement, il ne respecte pas l'habillement nos filles. Tu vois, un enfant, le matin, avant d'aller à l'école, il prend son, ce qu'il veut, il met dans son sac ou donner ça dans un sachet à son petit frère pour dire, il faut amener chez une telle, c'est là sa robe qu'elle m'a laissée hier soir.
À l'insu des parents.
À l'insu des parents. Mm-hmm. Toi, tu sors, tu prends le, ton sachet avec la fille. Et mais vraiment, en tout cas, de la sixième jusqu'en classe de troisième, ça ne va pas nous chez nous.
Ce sont des facteurs qui contribuent à la baisse de niveau ou bien de ces enfants.
Il y a
tout ça parce que avec ce genre de comportement, les enfants n'arrivent pas à bien suivre les cours. Si on
ils
peut
ne restent
dire.
Même pas suivre.
Donc si on
mais
comprend,
après,
vous voulez dire que les enfants sont eux-mêmes des, les premiers concernés, sont eux-mêmes
oui.
coupables, si on peut
oui.
le dire. Monsieur Arimi, Arima, autant pour moi du ministère de l'éducation.
C'est-à-dire, je pense qu'en abordant la question, vous avez essayé de remarquer que vraiment, il y a des responsabilités qui sont partagées.
Voilà. Mmh.
Vous avez parlé, par exemple, de la loi. Je remercie aussi Elias qui avait fait un peu tout le cadre là. Notamment, il faut même citer la politique, la lettre de politique éducative. Nous avons le droit même international. Il y a aussi même l'agenda 2030 de l'Union africaine. C'est-à-dire aussi bien sur le plan international, sur le plan africain régional et régional. Africain d'abord sur le plan régional et même Niger. Tout le cadre qui est là. Donc, du point de vue du cadre et autres là, Dieu merci. Mais maintenant, par rapport à ce que nous disons ici. Donc la loi de la Lausanne a effectivement réparti non seulement les responsabilités en termes de, même de, d'appui, mais encore en termes de partage même des ressources, même encore en termes de responsabilité aussi. Donc effectivement aujourd'hui par exemple par rapport à MPE, donc dans un système éducatif, nous avons donc des, il faut le voir sous deux ou trois phases. La première phase c'est l'admission, c'est-à-dire il faut créer les conditions pour que tous ceux qui ont le droit là puissent aller. Maintenant, une fois qu'ils rentrent, il faut créer les conditions de ce que nous appelons le maintien.
Le maintien.
Et maintenant, encore en maintenant, il faut leur donner un contenu vraiment assez pertinent, assez vraiment utile pour eux, pour le pays. Parce qu'il faut que les uns et les autres comprennent. L'État dit que, c'est-à-dire l'État a, un, a l'idée d'un citoyen. C'est-à-dire en 2030, en, du moins pas 2030, maintenant, en, quand l'enfant a 25 ans, moi, l'État que je suis, ce petit enfant qui est né, qui est entre mes mains, j'aimerais qu'à 25 ans, il soit telle chose pour qu'il puisse contribuer. Voilà, responsable pour qu'il puisse contribuer. Maintenant, dans tout ce que nous venons de dire, effectivement, comme vous l'avez remarqué, c'est-à-dire, je ne sais pas un peu si les gens voient un peu le, l'engouement que ça suscite chez un enfant d'aller à l'école. Mais c'est parfois, peut-être qu'à ce niveau, c'est vraiment, nous-mêmes, nous sommes d'accord. Parfois, c'est le contenu éducatif. Parfois, c'est la responsabilité des parents. Parfois, c'est la responsabilité des enseignants qui fait en sorte que ce jeune-là qu'on a pris entre les mains, nous le laissons. C'est-à-dire, nous disons que ça, c'est dû à un certain nombre de choses. L'éducation telle que perçue, là, l'instruction telle que perçue, nous, nous considérons qu'il y a une phase d'éveil. Il faut créer les conditions. Et toute âme que vous voyez là, Dieu lui a donné un certain nombre de prérequis.
Effectivement.
Qu'il faut essayer. Donc, le rôle de l'éducation, c'est de veiller à réveiller, par exemple, je ne sais pas si vous voyez, en trois, en terminale ou bien même en seconde, on crée les conditions de ce que nous appelons des orientations. C'est-à-dire, vous allez essayer de voir dans le comportement de l'enfant un certain nombre de dextérités qui sont innées en lui. Il faut essayer de réveiller ces choses-là et l'orienter vers le. Quelqu'un est bon en chant, quelqu'un est bon en animation, quelqu'un est bon en écriture, quelqu'un est bon en dessin. Donc, tout ça-là, ce sont des cadres professionnels, des métiers, des cadres de métiers qu'il faut essayer de détecter, former l'enfant. Peut-être que quelqu'un, très tôt, on se rend compte qu'il a des, vraiment, je ne sais pas, des aptitudes sportives même.
Voilà,
n'est-ce pas,
voilà.
Des aptitudes sportives. Donc, le système éducatif doit
l'orienter
essayer d'orienter. C'est ça le, système, le rôle du système éducatif. Dans un premier temps, d'éveiller l'enfant, lui donner, donc, nous considérons aussi que les premières années d'année scolaire, là, constituent des années, ce que nous appelons d'acquisition, des acquisitions fondamentales des bases, les compétences des bases. C'est trois. C'est lire, écrire et compter.
D'accord.
Une fois que l'enfant connaît ça, on essaie de voir en lui dans quel domaine il est utile pour le pays et le pays l'oriente dans ce sens. Mais il se fait que, bon, effectivement, pour une raison ou une autre aujourd'hui, tous ces trucs-là, et encore aujourd'hui, malheureusement, madame l'a dit, ou bien je ne sais pas, Elias va le dire aussi, c'est-à-dire l'enfant, dès qu'il naît aujourd'hui, il est pressé à avoir de l'argent. Il va du côté, je pense qu'un homme d'affaires d'État africain disait qu'il est très malheureux de voir que dans un pays comme le Niger, que le feu, par exemple, Zakaï, aujourd'hui, il est décédé, est plus connu que feu Abdul Moumouni. Vous voyez, C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a contribué à l'énergie solaire. Sur le plan mondial, il est reconnu. Mais aujourd'hui, aucun enfant ne te dira. Donc cela veut dire que la recherche, la connaissance, c'est le gain facile. Aujourd'hui, c'est ça.
Il apporte plus
sur la recherche. Tu vas voir chez toi, ton enfant de 18 ans, il dit que non, lui, c'est Messi, son modèle, c'est Ronaldo, son modèle, et ceci, cela. Justement, il faut essayer de créer les conditions pour que l'école soit utile. Pour que cet enfant, ces enfants-là qu'on a entre les mains aussi, sachent que la porte de sortie, comme l'a dit son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est-à-dire, n'eût été l'éducation, il ne serait pas là où il est aujourd'hui. Il le dit chaque fois, il le répète. Donc voilà un peu.
Alors, Monsieur Ilias, les défis auxquels le secteur éducatif est confronté, ils sont énormes, comme vous l'avez cité plus haut. On sait qu'il ne s'agit pas vraiment d'envoyer l'enfant à l'école, mais c'est le maintien, le problème. Qu'est-ce qui doit être fait à ce niveau concrètement?
Merci Nafisa, une fois de plus. Vous savez, le président de la République, son Excellence Issouf Mahamadou, lorsqu'il a pris le pouvoir, dans son discours programme, même dans la déclaration de politique générale du Premier ministre, il y a eu un certain nombre d'engagements, des engagements très forts qui allaient dans le sens de rendre l'éducation un droit. Jusqu'à, je crois, 18 ans, c'est ça, le programme de la Renaissance. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tout enfant qui naît, qui a l'âge d'aller à l'école, notamment à partir du préscolaire, à partir de 3 ans, l'État doit créer les conditions pour qu'il puisse aller à l'école. Ça veut dire, c'est quoi? Dans les différents quartiers, dans les différents hameaux qui ont une population scolarisable acceptable à mesure de créer une école, que l'État doit créer l'école, l'État doit amener un enseignant et les parents doivent inscrire les enfants. C'est ça le rôle de chacun. Vous voyez, à travers ce schéma, chacun joue un rôle. Et en dehors de ces écoles que l'État crée pour que les enfants aient le droit, il y a aussi ces écoles privées qui sont autorisées par l'État. Et aujourd'hui, ces écoles privées sont en train de supplier l'État à certains niveaux.
Comment?
C'est pour vous dire que nous, au niveau de ASOEPT, nous avons fini, pas plus que la semaine passée, un état de lieu sur les écoles privées au Niger. Aujourd'hui, nous allons engager, peut-être avec le concours du studio Kalangou, un débat sur les écoles privées au Niger, pour que les Nigériens comprennent quel rôle ces écoles privées jouent dans le système éducatif à côté de nos écoles publiques. Le prix exorbitant que ces chefs d'établissement fixent pour que les enfants accèdent à l'école, parce que c'est aussi leur droit.
La hausse des frais de scolarité, oui, ça entrave aussi l'accès.
Ça entrave parce que, je vous dis, il y a tout un dispositif légal. Normalement, quand un établissement privé augmente un prix, il doit le notifier à l'écrit à l'État. Mais ils ne le font pas.
Alors nous reviendrons sur ce sujet.
Voilà, c'est pour vous. Non, c'est juste pour dire que c'est aussi des portes d'accès à l'école. On ne doit pas les laisser comme ça pour que les gens gèrent comme ils veulent.
D'accord.
Ça doit être véritablement contrôlé par l'État. Maintenant, vous parlez des défis.
Oui.
Notre système éducatif rencontre beaucoup de défis, notamment la question des infrastructures d'accueil de ces enfants. C'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits, mais je vous dis, il y a beaucoup d'écoles aujourd'hui qui n'ont pratiquement pas de classes en maturité définitive. Même dans les grands centres urbains, à plus forte raison dans les milieux rurales.
Monsieur Armi a pourtant dit que beaucoup a été fait.
Je l'ai dit moi aussi, beaucoup a été fait, mais je vous dis, beaucoup reste encore à faire. Il faut que l'État puisse continuer également à construire ses infrastructures, à mettre à la disposition de ces écoles des enseignants qualifiés, comme l'a dit madame. Dieu merci, avec l'évaluation du ministère des enseignements primaires, on pense qu'on a dépoussiéré quand même beaucoup de choses au niveau du corps enseignant. Je pense que la formation continue pouvait quand même améliorer ce qui reste sur le terrain. Mais le défi actuel, madame, c'est la construction des infrastructures, la mise à disposition des écoles, des enseignants, la formation des enseignants, Et surtout, un autre aspect qui crée des difficultés aujourd'hui, c'est les grèves répétées des enseignants dues au manque de paiement ou de retard dans les paiements de pécules. Je pense que nous sommes dans les vacances. Je crois qu'on doit créer les conditions d'un dialogue inclusif pour pouvoir amorcer une nouvelle année sans difficulté. Surtout que nous sommes aussi dans le contexte de la COVID-19 qui est là. Qui a impacté déjà cette année scolaire. Et peut-être on ne sait pas de l'avenir, on ne le souhaite pas ce qui va venir, parce que nous sommes appelés à vivre avec la COVID. Donc ça aussi, il est important en termes de défis que le ministère puisse s'asseoir avec les acteurs pour réfléchir et voir qu'est-ce qui n'a pas marché pendant les 45 jours de la COVID. Qu'est-ce qu'il faut améliorer pour qu'on ne puisse pas avoir des retards des temps scolaires ou des pertes de temps scolaires.
D'accord. Oui.
L'autre aspect aussi, il faudrait profiter de ces vacances en termes de défis, voir comment créer un dialogue avec les syndicats d'enseignants aussi pour trouver des solutions qui vont être durables. Parce que le système a beaucoup souffert. Parce que tant qu'il n'y a pas d'enseignants, il n'y a pas d'accès.
Il n'y en a pas.
Il faut avoir des enseignants à l'école pour que l'accès soit.
C'est l'élément principal. Si l'élève
donc,
est l'élève.
Il faut créer cette stabilité aussi avec le corps enseignant. Voilà un peu ce que je pourrais dire en termes de défis immédiats qu'il faudrait améliorer.
Et justement, parlant de la qualité, même pour assurer une meilleure qualité, le gouvernement avait organisé, comment dirais-je, l'évaluation des enseignants en temps pour assurer vraiment cette qualité. Et donc, malheureusement, le problème de la qualité se pose toujours.
Vous savez, madame, le problème de la qualité, c'est un problème aujourd'hui mondial. Ce n'est pas le Niger seulement, malheureusement, qui est à la traîne. Mais on ne voit que notre pays et on doit se battre pour que la qualité y soit dans notre pays. Je pense qu'avec le programme rénové que le ministère a mis en œuvre, qui est déjà, je crois, dans sa deuxième année, il est aussi important de s'arrêter pour faire un peu la situation. Qu'est-ce que ce programme... Parce que le programme rénové a été mis en place pour améliorer la qualité. On a fait l'évaluation des enseignants, on a dépoussiéré, on a mené un programme rénové pour améliorer la qualité. Au bout de 2 ans, qu'est-ce que ça a donné? Il ne faudrait pas que le ministère reste au bureau pour voir les chiffres que... le niveau déconcentré envoyé, notamment les résultats de fin d'année pour dire bon, ok, on a eu de bons résultats cette année, ça veut dire que le programme rénové marche. Non, moi je pense qu'il faut aller au-delà pour interroger les acteurs, les directeurs d'école d'abord, les enseignants, les conseillers pédagogiques et les inspecteurs sur le terrain pour voir, pour leur demander qu'est-ce que vous avez constaté
ces deux dernières années
avec le programme rénové. Qu'est-ce qui marche dedans, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Je pense que ce programme rénové, il a quand même des choses très intéressantes qui peuvent améliorer.
D'accord.
Il suffit de revoir un peu, faire des retouches et maintenant continuer la formation, continuer des enseignants au niveau terrain et aussi mettre beaucoup en exergue l'association des parents, d'élèves, les CGDS aussi qui sont là-bas pour que l'accès soit... Et que l'État, lui, joue son rôle, celui du maintien
et de la qualité,
Alors, merci, Madame Mariama. Plus haut, vous avez parlé du problème de la qualité qui se pose, qui fait que certains parents ne voient même pas l'utilité d'envoyer leur enfant à l'école. Au niveau de votre association, comment vous prenez en charge ces genres de questions? Vous recevez des plaintes? Comment ça se passe?
Ces genres de questions, vraiment... On a déjà commencé à faire des sensibilisations au niveau de chaque commune.
À l'endroit de qui les sensibilisations?
Des parents. À l'endroit des parents qui ne veulent pas inscrire leurs enfants à l'école. Donc, il faut les sensibiliser de temps en temps. Sinon, ça ne va pas.
Les sensibiliser sur quoi concrètement?
Les sensibiliser pour leur dire que vraiment, de laisser leur enfant aller à l'école. Si l'enfant n'est pas parti à l'école, il n'est ni utile à ses parents. Pourquoi? Parce que moi, j'ai un ami qui est à l'école et moi, je ne suis pas écolière. Donc, il me fréquente. Chaque fois, on sort ensemble. Tu vois ce que ça fait pour la maman? Il n'est ni à l'école, ni à la maison. Donc, tu vois, c'était un gros fardeau.
Mais ses parents, ils jugent qu'il y a une mauvaise qualité de l'enseignement. C'est pour cela qu'ils n'envoient pas leur enfant. C'est ce que vous avez un peu
expliqué. Mais c'est qu'ils ont mal compris. Ils ont mal compris.
Okay. Donc, c'est à travers des séances de sensibilisation.
Des sensibilisations, chaque fois qu'il faut leur venir à leur rencontre. Comme ça, on va vraiment arriver à leur faire comprendre que chaque enfant, à l'âge de l'école, il faut qu'on l'inscrive.
D'accord.
Oui.
Ok. Monsieur Arima, comme l'a expliqué Madame Mariam, il arrive que des parents se plaignent de la qualité de l'enseignement reçu par leur enfant. Est-ce qu'il y a des voies de recours? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des voies de recours sur ces genres?
Je ne sais pas si voies de recours, vous allez parler d'un cadre peut-être beaucoup plus juridique. Mais sinon, aujourd'hui, par exemple, comme nous venons de le dire, et toujours nous revenons à notre loi d'orientation, le parent est partie prenante essentielle de l'éducation au Niger. Nous avons ce que nous appelons les CGDS, les comités de gestion décentralisée des établissements scolaires au niveau du primaire et au niveau, par exemple, aussi de l'enseignement professionnel et du secondaire, ce sont les COGES. Donc, ce sont les comités de gestion des établissements scolaires. Donc, il se fait qu'aujourd'hui, par exemple, nous ne sommes plus dans une optique de l'école au village, mais c'est l'école du village. Donc, à ce titre, l'État, dans le cadre de tout ce que nous faisons, nous considérons le parent vraiment comme partie intégrante de l'école. L'État crée, comme l'a dit Ilias, l'État crée l'école. Et la plupart, aujourd'hui, peut-être même dans certaines communautés, moi, pour avoir fait tout le Niger, c'est-à-dire de Bilma à Gatera, je me rends compte que même selon les communautés au Niger, et tout ça, nous le vivons, certaines communautés ne se rendent même pas compte. Aujourd'hui, l'école est perçue, par exemple, dans certaines communautés, surtout zones nomades, comme vraiment un instrument même de promotion humaine. Ça, c'est déjà perçu. Donc, je vous donne l'anecdote, par exemple, d'une zone à Metime. Donc, Metime, c'est le nord Ningimi, où le parent, où les parents, l'enseignant qu'on a affecté, c'est-à-dire que pour sur ces 65 000 francs qu'il doit gagner, ce que les parents lui ont même cotisé, c'était deux fois ce montant. Et ils lui ont dit que même ton TPQ là, tu peux le laisser. Nous, tout ce qu'il avait trouvé des enfants de ceux d'abord, lui ne parlant pas la langue du milieu, les parents ont dit que non. Il parle le français, il parle, il communique avec la communauté à travers les enfants. Et ils ont dit, nos enfants là, c'est ça notre propriété. Fais le travail.
Voilà.
Le reste, là, nous, on s'occupe.
Et le gars, je ne sais pas aujourd'hui s'il a encore quitté la zone. Il ne pouvait même pas quitter.
Il pouvait pas.
Donc aujourd'hui, par exemple, maintenant, je pense qu'il faut aller vers la communauté. Il faut davantage sensibiliser. L'État le fait, les services étatiques le font. C'est-à-dire créer les conditions pour dire aux parents que c'est-à-dire votre bien commun, là, votre bien vraiment utile, c'est l'enfant.
C'est l'enfant.
Nous amenons, nous créons les conditions. Aidez-nous à le garder à l'école, d'amener-le à l'école.
Et le garder
à l'école.
Oui, monsieur Arima, dans des zones de conflit, beaucoup d'écoles ont été fermées pour insécurité. Et ce sont des milliers d'enfants qui n'ont pas pu continuer à aller à l'école. Qu'en est-il de la situation exactement?
Oui, bon, donc maintenant, par rapport à cette question, il faut essayer de le dire que depuis bientôt 2015, donc avec l'histoire de Boko Haram à Difa, et aujourd'hui la zone des trois frontières entre Mali, Niger, Burkina, et aussi ce qui s'est passé dernièrement à Maradi, si vous avez remarqué. Donc aujourd'hui, nous avons au Niger quatre zones qui sont concernées. C'est la région de Difa, la région de Maradi, la région de Tawa-Tilaberi. Les quatre zones dans lesquelles nous avons environ 354 écoles fermées pour environ 36 562 enfants qui sont encore déscolarisés pour 851 enseignants concernés. Donc maintenant, encore quelque part, je pense quand on avait commencé aussi, il ne faut pas oublier qu'au-delà, nous avons ce que nous appelons les enfants hors école. C'est-à-dire malgré tout ce que nous faisons avec les 3 800 000 enfants qu'on a entre les mains, nous avons 2 600 000. Donc une enquête de 2019 de l'UNICEF a démontré que nous avons 2 600 000 enfants hors système éducatif. Donc nous considérons que ça là aussi, l'État, c'est de la responsabilité de l'État de voir dans quelle mesure. Donc nous avons aussi tout un tas d'offres éducatives. Et je pense qu'il y a son aussi partie prenante avec nous, donc les classes passerelles, l'histoire de seconde chance, où on prend des enfants de 8, 9, 10 ans, on essaie de leur donner un programme vraiment accéléré de 2, 3 ans et les ramener dans le système. Parce que pour l'État, le seul enfant qui est hors système là, c'est déjà un danger.
C'est un danger.
Et mieux encore dans les zones de conflit, comme vous l'avez dit, ces enfants-là constituent, surtout les jeunes adolescents, une base de recrutement aussi pour ces gens-là. Pour cela, donc, on ne doit pas les laisser à travers, par exemple, des offres vraiment de l'éducation au métier et des contenus assez vraiment attractifs pour ces enfants. Nous essayons de créer les conditions pour les ramener.
D'accord.
Donc, pour ce qui est ce qui a à faire encore, donc je vous dis qu'aujourd'hui seulement, je devais présenter à à monsieur le SIG du ministère de l'enseignement primaire une stratégie que nous appelons une stratégie de réduction de la vulnérabilité du système éducatif nigérien face aux conflits et aux catastrophes naturelles. Donc les quatre types de crises que nous affectons là-dedans, là, il y a le déficit fourrager. Je ne sais pas si les gens le savent, la zone pastorale, chaque année, nous avons 40 000, 50 000 enfants qui quittent le système parce qu'ils suivent les parents.
Oui.
Deuxièmement, maintenant, nous avons les inondations. Actuellement, vous avez vu, nous sommes en cours. C'est-à-dire qu'on risque d'aller à des zones où des infrastructures seront affectées. Donc, à la rentrée, quand on vient, il faut encore reconstruire, redémarrer tout ça. Troisièmement, maintenant, nous avons, donc aujourd'hui, c'est qu'on va sûrement qu'on va revenir, c'est la pandémie. Donc, les épidémies de manière générale, la pandémie de COVID. Maintenant, quatrièmement, c'est ce que nous appelons le mouvement de population dû au conflit. Les conflits, je viens de le dire, les déplacés internes. Là, nous avons donc quatre catégories de personnes que nous prenons. D'abord, donc, la population haute, justement, dans une zone pareille. Aujourd'hui, quand tu pars à Torodi, au-delà de Torodi, Makalondi, dès que tu pars, tu sais que cette zone est affectée. Donc, maintenant, nous avons la population haute même, la population des retournés nigériens, c'est-à-dire selon le Burkina, Mali ou bien le Nigeria. Vous allez essayer de voir que quand il y a des conflits, il y a une catégorie de nos concitoyens qui étaient de l'autre côté qui vont revenir. Nous avons donc maintenant les réfugiés même. Pour le Burkina, peut-être que je ne connais pas, mais les Maliens et les Nigériens, ils sont de l'ordre d'environ 54 000 actuellement entre nos mains, pour lesquels nous avons des enfants à scolariser, malgré tout ce que cela pose comme problème même de curriculum parfois, surtout avec le Nigeria, si le Mali est un pays francophone. Et maintenant, quatrièmement, ce sont les déplacés internes. Les déplacés internes, par exemple, quand on prend la zone de Difa, quand les Tchadiens étaient venus, bon, ils ont dit que leur stratégie militaire fait en sorte que...
Autant de difficultés, Monsieur Ilias, votre association a pour vraiment mission d'assurer une éducation effective pour tous. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les actions que vous entreprenez dans ce sens pour assurer l'effectivité? Quelles sont les actions concrètes que vous faites?
Merci, Nafisa. La coalition ASSO-EPT Niger, l'un des rôles qu'elle mène, c'est de faire le plaidoyer pour que l'éducation pour tous, tel que prôné par les engagements internationaux, par le gouvernement du Niger, que ce soit une éducation de qualité pour tous, pour que tous les enfants du Niger puissent aller à l'école. C'est ça notre premier rôle. Nous faisons du plaidoyer pour interpeller l'État, pour dire à l'État que nous avons beaucoup d'enfants qui ne partent pas à l'école. Vous avez le droit, du moins le devoir, de créer les conditions pour que ces enfants puissent aller à l'école et les maintenir à l'école. Donc, nous, notre rôle, c'est d'interpeller l'État. C'est pourquoi vous voyez que dans la configuration de ASSO, nous avez des associations de défense des droits des enfants, vous avez des ONG actives en éducation, vous avez des syndicats de l'éducation. Nous faisons du plaidoyer et souvent nous faisons de lobbying pour faire aboutir certains textes qui vont permettre d'améliorer l'accès et la qualité de l'éducation. Nous interpellons aussi les partenaires techniques et financiers. Vous savez que ces partenaires techniques et financiers aussi, ils prennent beaucoup d'engagements pour accompagner le gouvernement. Quand vous prenez la réunion de reconstitution du Fonds du partenariat mondial pour l'éducation qui a eu lieu à Dakar, où le président Issoufou avait participé et nous-mêmes, on était là-bas au titre de la société civile africaine, il y a eu des fonds qui ont été reconstitués pour mettre à la disposition de nos États. Je pense que le Niger bénéficie déjà de ces fonds à travers le programme de transition du secteur de l'éducation. Donc nous, notre rôle, c'est de veiller pour que ces fonds reconstitués et mis à la disposition des États puissent être utilisés rationnellement pour que les enfants puissent accéder à l'école. Donc ça, c'est notre rôle. Vous avez vu, nous interpellons l'État pour respecter ses engagements. Nous interpellons les PTF pour respecter les engagements qu'ils ont pris pour accompagner le gouvernement à mettre en œuvre les politiques éducatives, notamment au Niger. Aujourd'hui, notre PCF suivi de notre plan de transition. C'est ça notre rôle. Et nous sensibilisons également nos parents pour que eux aussi ils puissent véritablement jouer leur rôle. Parce qu'aujourd'hui, Arim l'a dit, nous sommes aller dans la vision où ce n'est plus une école du gouvernement, c'est une école du village. Donc, vous devrez inscrire vos enfants, l'accompagner, le suivre, même peut-être accompagner socialement les enseignants pour que l'école puisse réussir.
Merci voilà, à vous. Alors, Madame Mariama de l'Association des parents d'élèves, on dit que l'éducation, elle concerne tout un chacun. Oui. Alors, quel doit être vraiment le devoir de chaque acteur concerné pour assurer vraiment ce droit aux enfants, à tous citoyens?
Pour assurer ce droit-là, chaque acteur a le droit de vraiment d'accompagner les enfants.
À commencer d'abord par les parents.
Les parents. Mm-hmm. Oui, c'est la première des choses, c'est les parents à la maison. Mm-hmm. Maintenant, la deuxième étape, les enseignants. Donc, après ça, il y a les parents aussi, les autres parents. Vraiment, il faut... Chacun dans son domaine doit garantir à l'enfant ce qu'il veut. Mm-hmm. Surtout à l'école primaire, il faut les laisser le temps de faire les jeux, les loisirs, de leur accorder les loisirs. Peut-être même à la rentrée prochaine, ils commenceront à apprendre à faire des EPS, vous voyez. Même actuellement, dans les écoles primaires, les enseignants sont là pour les apprendre.
À l'État aussi de mettre à la disposition des élèves, des enseignants qualifiés.
Oui.
Effectivement. Oui. Alors, Monsieur Arima, nous sommes à la fin donc de cette émission. Quel conseil à tous les concernés pour que chaque enfant puisse aller à l'école et être maintenu même à l'école pour avoir ce droit, pour jouir vraiment de ce droit?
Donc, une fois de plus, merci pour tout ce que vous nous faites. Mais donc, comme je l'ai dit au niveau de l'État, c'est de faire en sorte que tous les partenaires, comme je le dis aussi toujours, vraiment l'éducation c'est un défi. Mm-hmm. L'État crée les conditions, l'État fait de son mieux. Mais tant qu'il n'y a pas l'apport de nos associations, l'apport de nos parents, ça ne peut pas aller. Nous prenons un petit exemple, par exemple, de la qualité à laquelle nous disons. Quand l'enseignant a 60, 30, 40, 50 enfants entre les mains, le petit accompagnement que la maman ou le papa va faire autour de la lampe tempête, c'est utile pour l'enseignant. Mm-hmm. Le seul fait de lui demander, hey, viens petit, ton cahier là, ouvre, regarde ce que vous avez fait. Mm-hmm. Donc le seul fait qu'il revise à la maison, tu vas avoir demain un autre enfant. Mm-hmm. Donc c'est pourquoi vraiment nous essayons de dire que mieux aujourd'hui, nous avons même vraiment des stratégies qui font en sorte que les parents prennent même en charge, appuient l'État. Et à travers le CGDS, là aujourd'hui, nous avons beaucoup de ressources. Peut-être que parfois, c'est des mécanismes qui manquent aux gens. Mm-hmm. C'est-à-dire quand je demande à mon petit-parent de donner 2 chèvres pour la scolarisation de ses enfants, ça ne lui coûtera rien. Ça ne lui coûtera rien, mais c'est-à-dire parfois, il ne le sait pas.
D'accord. Ouais, ouais, mais... Merci bien.
Voilà.
Alors, voilà. Oui,
sinon, c'était pour dire un peu par rapport à la stratégie des enfants hors système ou bien autres là, qui sont en conflit là. Ils sont de l'ordre de 315 000 et donc nous les connaissons. Mm-hmm. Donc nous sommes en train de créer les conditions pour 2020 pour que vraiment ils retournent à l'école à travers des stratégies de regroupement des écoles.
Merci à vous. Rapidement, Elias, votre mot de fin.
Ça me réjouit que vous voulez... L'État est en train de voir comment prendre à résorber les enfants hors système. Mm-hmm. En 2020, ça permettra au secteur de l'éducation, de l'alphabétisation, éducation non formelle de véritablement fonctionner. Mm-hmm. Moi, je pense qu'il est important qu'on ait plus de moyens à mettre en œuvre dans le secteur de l'éducation. Mm-hmm. Il est important qu'on ait plus de dialogue avec les acteurs, les responsabiliser davantage. Il est aussi important de faire beaucoup plus de sensibilisation au niveau des acteurs pour que tous ces efforts conjugués contribuent à créer les conditions d'accès des enfants en âge d'aller à l'école, de les maintenir. Et ceux qui sont en dehors du système, qu'on puisse aussi les créer des écoles à passerelle, des écoles de deuxième chance et les reverser dans le système éducatif.
Merci à vous. Alors, plus de moyens dans le secteur éducatif, plus de sensibilisation pour tous les acteurs en charge de l'éducation. C'est sur ces mots que prend fin cette émission. Nos remerciements à l'endroit de nos invités, M. Arima Chegou, qui est en charge des urgences en éducation au ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique. Merci à vous. Madame Mariama Koulibaly, qui représente l'Association des parents d'élèves et étudiants du Niger. Merci également
à vous.
Ilyas Al-Hussein, il est le président de la Coalition nigérienne pour une éducation de qualité pour tous, Asso et PT. Merci également à vous d'être venu. Alors, l'éducation des enfants au Niger, comme vous l'avez si bien entendu, concerne tout un chacun. Chacun doit s'y mettre pour vraiment que tous ses enfants puissent jouir de ce droit ici au Niger. Et c'est la fin de cette émission. À la présentation, c'était Nafis Adam Sirfo. À la technique, Seyni Isaka. À la réalisation vidéo, Mustapha Ayuba. À très bientôt pour une nouvelle thématique sur le studio Kalongo.